VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram au Cameroun, double attentat suicide dans l'extrême nord du pays qui a fait au moins 9 morts dimanche, au lendemain de 3 explosions au Tchad voisin dont le bilan serait de 37 morts et 50 blessés. Eric Manirakiza.
Quelques heures à peine après les attentats sur les bords du lac Tchad, les islamistes ont frappé de nouveau, non loin de là, mais cette fois au Cameroun. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser vers 6h, 5h temps universel, dans le village d'Okangaleri, à une trentaine de kilomètres de Mora, dans la province de l'extrême nord, selon une source sécuritaire et un responsable local. La première femme a tué 9 personnes dans un petit restaurant populaire vendant du lait et des beignets, tandis que la seconde s'est fait exploser seule, sans faire de mort, a expliqué ce dernier. Parmi les 29 blessés, plusieurs sont actuellement dans un état très grave et ont été acheminés d'urgence vers les hôpitaux de la région, a-t-il précisé. Il s'agit des 14e et 15e attentats suicides dans l'extrême nord du Cameroun depuis juillet. Plus de 100 personnes ont péri dans ces attentats attribués aux islamistes nigériens.
En RCA, toujours pas de bilan 48 heures après l'attaque des forces internationales contre une colonne d'ex-combattants de la Séléka aux environs de Sibut, à 160 km au nord de Bangui. Des précisions avec notre correspondant dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
Selon les autorités préfectorales de la Kémo, il est encore difficile de fournir un bilan des combats qui ont eu lieu aux alentours de Sibut, car jusqu'en début de soirée de ce dimanche, les opérations se poursuivaient. Certaines sources parlent d'importants dégâts humains et matériels dans le rang des miliciens de la Séléka qui tenaient à marcher samedi sur Bangui. À Bangui, le gouvernement se félicite de cette opération. Son porte-parole, Dominique Saïd Pagindi, annonce que c'est un message fort envoyé aux groupes armés qui sèment la terreur dans le pays.
Ceci est un message clair qui est envoyé en direction des groupes armés pour leur dire qu'aujourd'hui, l'équilibre de la force n'est pas en leur faveur et qu'ils ont plutôt intérêt à revenir autour de la table de négociations pour privilégier des solutions politiques, des solutions apaisées.
Entre-temps, la vaste concertation de la présidente de la transition avec toutes les forces vives de la nation, dont l'ouverture prévue ce lundi, risque de ne rien donner. Le Front populaire pour la renaissance de son trafic, branche de l'ex-Séléka, ainsi que certains partis et associations politiques, ont ouvertement annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces pourparlers. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les partisans du changement de constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir après la fin de son deuxième mandat ont manifesté ce week-end dans la capitale en faveur du référendum constitutionnel prévu le 25 octobre. Le point avec notre correspondant à Brazza, Nguela Ngoussou.
Selon la police, plus de 100 000 personnes se sont rendues au boulevard de Brazzaville pour soutenir l'idée du référendum constitutionnel qui aura lieu le 25 octobre prochain. Pour ses pros, Sassou Nguesso, une nouvelle république est aujourd'hui nécessaire pour le développement du Congo. Pierre Mabiala sur les motivations juridiques d'un tel projet. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Au Rwanda, Frank Habineza, leader du Parti démocratique vert d'opposition, annonce son intention de demander publiquement au président Paul Kagame de ne pas violer la Constitution en briguant un troisième mandat. La haute cour rwandaise a débouté récemment le Parti vert dans ses efforts pour bloquer le projet d'amendement constitutionnel mettant fin à la limitation des mandats présidentiels à 2 seulement. Ce qui pourrait ouvrir la voie à un autre mandat pour le président Kagame à l'expiration de son deuxième en 2017. D'où la décision de Frank Habineza de faire appel directement au chef de l'État rwandais pour obtenir son refus officiel d'un nouveau mandat. Le leader du Parti démocratique vert cite à titre d'argument l'opposition de Washington au changement de constitution visant à permettre au chef d'État de se maintenir au pouvoir.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Guinée, la population dans l'attente des premiers résultats après un scrutin présidentiel sous tension hier, mais sans incident majeur. Le principal problème, des anomalies dans un certain nombre de bureaux de vote, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Pas la peine. Daouda nous montre sa carte d'électeur, mais il dit n'avoir pas retrouvé son nom sur la liste.
Je dois voter ici, dans le bureau de vote numéro 002, mais je ne retrouve pas mon nom dans la liste qui est envoyée.
D'autres anomalies ont été constatées dans plusieurs bureaux de vote, comme le témoigne Frank Engel, chef de mission d'observation de l'Union européenne.
Il y a eu des problèmes ponctuels, pourtant généralisés, des retards dans l'ouverture, du matériel qui manquait, des procédures de vote qui se sont engagées lentement, mais qu'à la fin du compte, cela n'a pas empêché les électeurs à se présenter relativement en masse.
Pour corriger les anomalies, la Commission électorale nationale indépendante a fait voter au-delà de 18h, heure de fermeture, mais dans les bureaux de vote ayant démarré les opérations en retard. Les Guinéens choisissent leur président de la République parmi 8 candidats, dont Alpha Condé, le président sortant. Les résultats provisoires seront connus dans quelques jours et la Cour constitutionnelle a 8 jours pour publier les résultats définitifs. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Pour sa part, l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de grave irrégularité et annonce son intention de contester les résultats si des fraudes sont avérées. Côté pouvoir, on donne déjà le président sortant Alpha Condé vainqueur au premier tour. Burkina Faso, le chef de la mission électorale de l'Union européenne dans le pays, est rentré ce week-end chez elle en Italie. La députée européenne Cécile Kyenge affirme que le nouveau chronogramme électoral burkinabé sera dévoilé sous peu par le gouvernement de transition. Ses déclarations au micro de notre envoyé spécial en Italie, Nicolas Pino.
J'ai pu rencontrer tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus électoral, de la société civile, la CENI, le Conseil constitutionnel, le Premier ministre, le Conseil national de transition et jusqu'au président de la République, justement pour leur faire comprendre qu'on n'a pas changé nos objectifs, nous sommes là, on doit accompagner le processus électoral. Et d'après ces premiers contacts, tout le monde veut arriver à une date le plus tôt possible. C'est-à-dire ils veulent arriver à la fin de la transition le plus tôt possible. Et il faut dire que les gens qui pensent aller au-delà de 2015 sont vraiment une minorité. Il y a vraiment une minorité avec laquelle on a parlé. Mais jusqu'à présent, la majorité du pays pense que c'est le cas de donner une date avant la fin de l'année. Et le président nous a promis que d'ici peu, d'ici quelques jours, il va annoncer la date des élections.
La députée européenne Cécile Kyenge, chef de la mission électorale de l'Union européenne au Burkina Faso. Et pour terminer, en Italie, la Sicile est la principale porte d'entrée en Europe pour les Africains et autres candidats à l'asile transitant par l'Afrique du Nord. Voici le reportage de l'envoyé spécial de VO Afrique sur place, Nicolas Pino.
Chaque jour ou presque, le rituel est le même dans un port sicilien. De Pozzallo à Messine, en passant par Augusta ou Catane, un navire accoste avec à son bord des passagers un peu particuliers. Le regard perdu, emmitouflé dans des couvertures de survie, ils s'apprêtent à poser le pied sur cette terre européenne dont ils ont tant rêvé. Érythréens, Soudanais, Maliens ou Libyens, ils débarquent par centaines en Italie. Le bateau norvégien Siem Pilot a secouru 239 migrants la semaine dernière. Le navire britannique Enterprise a lui sauvé plus de 650 personnes des eaux de la Méditerranée. On écoute le commandant du bateau norvégien Siem Pilot, Tore Barstad.
Nous recevons des appels de détresse, parfois passés depuis la terre ferme par les passeurs. Malgré les patrouilles et les nombreux bateaux européens présents dans la zone, la traversée reste dangereuse. On ne peut pas être partout à la fois et sauver tout le monde. C'est une loterie malgré nos systèmes de surveillance sophistiqués et nos radars.
Les opérations Triton ou Mare Nostrum ont permis de faire diminuer le nombre de morts dans la zone. On a quand même enregistré depuis le début de l'année plus de 3000 décès. Effet pervers de ces missions de sauvetage, les passeurs expliquent désormais aux migrants que le voyage est plus sûr en raison de la présence de ces navires européens. Un bien mauvais argument de vente. Les trafiquants profitent aussi de l'occasion pour limiter encore plus le peu d'essence qu'ils mettent dans les embarcations de fortune. Les autorités européennes cherchent à tout prix à identifier, arrêter et traduire en justice les passeurs qui opèrent des deux côtés de la Méditerranée. Nicolas Pino en Sicile pour VO Afrique.
Et pour terminer, plus de deux semaines après la bousculade de Mina pendant le pèlerinage annuel de la Mecque, le bilan des victimes s'élevait dimanche à au moins 1501 morts, selon les chiffres donnés par 30 pays. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.